Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Liberté.
Les logiciels respectent la liberté de leurs utilisateurs.
Égalité.
Personne n'a du pouvoir sur personne.
Fraternité.
Nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Avec un programme où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs.
Le seul incitation à innover, c'est qu'on vous copie.
Bonjour chez vous, c'est Source, vous êtes libre ce soir? Eh bien nous aussi. Nous aussi, c'est Source, le libre de l'université libre de la communauté de la grande université de Bruxelles. Et un vendredi du 1er et du 3e, eh bien de 18h à 19h30. Un petit coucou de ce qui se passe dans la planète, des gens qui trouvent que plus on est libre, mieux on se porte, quelque chose comme ça. Et que même tout à fait libre, c'est même un framatalk.org/source, si vous voulez nous faire un petit coucou, coucou de, dans la vraie vie, mais coucou ici sans problème. De la collaboration, on en aura beaucoup besoin pour remontrer un petit peu les locomotives sur les rails et les wagons qui vont aller avec. Et donc dans cette notion de contribution, eh bien, nous avons des contributeurs d'un côté, dont on peut se mettre un petit avant-goût de ce que l'équipe de Framasoft avait mis en place à l'époque. Et puis un nouveau projet qui va un petit peu de pair, qui s'appelle Contribule, et dont on aura aussi l'occasion de vous faire un petit aperçu ici. Et mes copains camarades de micro sont tous là, aucun chips sous la main, c'est parfait. Merci Terry Rock, merci Tirs, merci à Géo d'être fort silencieux buccalement avec des scrunchs et des scrunchs.
Hello, bonjour, et ça peut s'arranger.
Ouais, mais on avait dit maximum de cacahuètes. Ça, c'est, ça passe encore les filtres de certains micros.
Hein, ouais, parce que les tomates, ça peut tâcher le micro.
Oui, c'est vrai, c'est très 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 vrai. Tout se passe bien de votre côté, la vie est belle et libre.
Oui, une petite AG en préparation, en construction, et un petit retour de l'événement qui n'a pas eu lieu. Non, on ne pouvait pas dire qu'il avait un lieu physique.
Le OFDEM, c'est ça?
Le OFDEM.
Ouais. Eh bien, parfait, on se met dans l'ambiance de ce qu'est un contributeur ou comment contribuer au logiciel libre quand on n'y connaît rien. On se met quelques minutes, j'ai entendu un coup de sonnette.
On est trois membres de Framasoft, mais on va parler plutôt en tant que co-organisateur des contributeurs qu'on fait depuis un an à Lyon, avec Benjamin, Gadi et moi Quentin. Donc on a fait des super slides sur un logiciel qu'on maîtrise à 90%.
Ok. On va essayer, ça change. Ouais.
La première deuxième slide. Donc le titre de notre conférence, c'est « Tu t'es vu contribuer » et la deuxième slide.
Donc juste un petit point, on utilise l'écriture inclusive, il, elle, yel parfois, donc ne tiquez pas, c'est juste quelque chose auquel on va tous se faire collectivement, je pense. Donc si ça vous ennuie, bah, on est désolé pour ça, mais ne vous inquiétez pas, ça vous passera.
Alors déjà on va parler un peu de contexte, pourquoi on a besoin du libre, pourquoi on a besoin que toutes et tous on s'attribue un peu cette capacité à dire on va pouvoir contribuer au libre. Donc on va aller mettre quelques éléments de contexte, on va essayer d'être assez rapide, ça se trouve vous connaissez déjà un peu tout ce qu'on va dire, mais on préfère quand même avoir une même base, parce qu'un des principes des contributeurs, c'est de dire que tout le monde peut s'emparer de cette question-là. Donc on essaye de ne pas partir d'un constat qu'on a tous les mêmes compétences, ou les mêmes connaissances sur le sujet. Alors déjà, pourquoi s'intéresser au logiciel libre? Il y a le principe de liberté qui était là dès le début du mouvement du logiciel libre dans les années 80, donc de Richard Stallman, qui a posé un peu quatre conditions nécessaires, mais juste nécessaires, mais pas forcément suffisantes pour tout réussir. Donc quatre conditions, quatre libertés, qu'on connaît peut-être si on s'intéresse au mouvement du logiciel libre. Donc la liberté zéro, c'est de l'usage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand on fait un logiciel libre, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser comme il le souhaite. C'est-à-dire que si on est une personne en situation de handicap, par exemple, et bah, le logiciel libre doit essayer de répondre à la question de dire, bah, même si tu as certains handicaps, on va essayer de faire en sorte que tu puisses utiliser ce logiciel. Ce n'est pas forcément évident à faire ou à avoir en tête au début. Autre cas d'usage, ça peut être par exemple à l'inverse, de dire mon logiciel il va marcher que si je suis en France ou que je suis dans certaines conditions. Le logiciel libre, non, il va plutôt dire, même si tu es en France, en Finlande ou en Australie, tu n'auras pas de restrictions sur l'usage de ton logiciel. Tu pourras l'utiliser comme il te semble. Donc là, je vais un peu opposer le logiciel libre au logiciel privateur. Vous avez peut-être des exemples en tête. Moi, j'en ai un par exemple concrètement. Spotify, qui est un lecteur de musique, bah, si on est dans un autre pays autre que la France, il va nous bloquer certaines musiques. Il va dire, bah, non, tu ne peux pas écouter cette musique-là. Donc là, on a une privation de liberté. Le logiciel libre, plutôt, va dire, on peut user le logiciel libre comme bon nous semble. La deuxième liberté, la liberté d'étude, qui est fondamentale, c'est-à-dire que toute personne peut aller regarder la recette de cuisine du logiciel, voir si ça lui correspond en termes politiques, éthiques, de dire bah, ah, là, tiens, c'est marrant, tu récupères mes données personnelles, j'avais peut-être pas trop envie. Du coup, cette liberté d'étude permet d'être en accord ou non avec le logiciel. À l'inverse, les logiciels privés, du coup, sont des boîtes noires et on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe et on n'a juste pas la liberté, la possibilité d'y aller. Donc potentiellement, des choses qu'on n'a pas forcément envie, peut-être que non, ce n'est pas tous mauvais. Dans ce cas, la liberté d'étude permet aux personnes compétentes d'y aller et de s'assurer que ça correspond à ce qu'on a envie de faire. La troisième, quatrième liberté, on parle en même temps de redistribution et d'amélioration. C'est-à-dire, bah, si on n'aime pas le logiciel ou s'il ne correspond pas exactement à ce qu'on a envie d'en faire, et bah, en fait, on aura la capacité de le modifier et de l'ajuster en fonction de notre besoin, notre contexte, j'en sais rien, peut-être notre vision du monde. Et donc, il y a plein de cas où en fait, le logiciel il existe comme il est. Et parce que les personnes l'ont pensé comme tel, et après, sauf qu'il y a d'autres gens qui vont dire, bah, tiens, si juste je modifie un peu, je vais pouvoir m'adresser à d'autres personnes, il faut avoir un autre but. Et donc le logiciel libre permet ça, de dire, je vais améliorer, donc concrètement, ça veut dire peut-être faire du code, mais autre, on verra ça dans la suite de la conférence, et aussi du coup de redistribuer, donc les modifications, je ne les garde pas que pour moi, mais je vais les redistribuer à la communauté. Pourquoi on doit s'intéresser au logiciel libre? Pour nous, c'est primordial le logiciel libre pour s'émanciper. A l'inverse, un logiciel qui est privé, potentiellement, il va ne pas permettre qu'on s'émancipe à travers la technique. Ce qui est dommage, parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'on fait de la numérique, de l'informatique, comme un moyen pour faire autre chose. Et du coup, si on ne peut pas s'émanciper avec ça, on va être privé de liberté, on va être bloqué. Donc là, la photo qu'on a mise pour illustrer ce point-là, c'est de se dire il y a beaucoup de sites web qui étaient basés sur des cartes Google Maps. Et du jour au lendemain, Google Maps a changé ses règles du jeu. Elle a dit, au bout d'un certain nombre de visites, avant c'était gratuit, on nous a fait un cadeau, vous êtes habitués à aller chez nous, et maintenant en fait, non, il va falloir payer. Et donc au début, on a l'impression que c'est cool, c'est gratuit, c'est excellent, c'est un beau cadeau que nous fait Google, sauf que comme on n'a pas le droit de dupliquer celui-ci, on n'a pas le droit de le redistribuer autre, et bien c'est un peu une logique de dealer, c'est la première pause est gratuite, mais potentiellement après, une fois qu'on est pris un peu dans les ventrailles.
Voilà, vous voyez un petit peu de quoi il en retourne. Eh bien, c'est Contrib Atelier, c'est une belle création de l'équipe, d'une partie de l'équipe de Framasoft. Et voilà, on va pouvoir contribuer à leur proposer de faire des captations de conférences des journées du logiciel libre. C'était en juin 2019. Et ils étaient donc là à Lyon. Oui, contributeur, contributrice.
Bonjour, l'ami, j'ai un projet.
Hein, voilà, et maintenant on a en plus Nico qui nous a rejoint aussi. Grand projet. L'apéro du soir.
Moi, je connais quelques sites à traduire dans plein de langues.
Ah oui, c'est une forme de contribution aussi, la traduction.
Ah oui.
Est-ce que mon micro fonctionne?
Mais il faut s'en approcher.
Tout a l'air tout calme.
Moi, je regardais un peu le site de. Contribule.org dont tu parlais en débutant l'émission et ouais, comme disait Terry Rock en coulisses, il y a deux gros boutons, donc c'est assez intuitif. Soit tu veux contribuer, soit tu veux que ton projet tu as besoin d'aide pour ton projet, et quand tu mets sur contribuer, et ben tu as déjà quelques gros projets du style cuisine libre, Common Voice, dont on peut parler hein, après, mais enfin, voilà.
Bah, par exemple, là, je vois qu'il y a Miski, qui est un projet qui... Miski est une plateforme de microblogage distribuée sur tout Internet. Miski se connecte ensemble aux faits divers. Et du coup, après, on a un joli petit bouton. Donc ça, c'est un des projets qui est sur Contribule.
Alors, Contribule, ça s'écrit Contribule, comme une bulle, point org. comme ça.
Ouais, vous pouvez déjà aller jeter un petit coup d'œil dessus. Et sans devoir passer par la rédaction.
Voilà. Et du coup, je termine avec Miski. Hein. Donc, en gros, c'est, il demande une contribution de traduction. Et donc, quand on regarde l'annonce, après, on a un petit détail qui nous explique qu'il y a encore des traductions à faire en anglais, en allemand, et qui demande de l'aide pour ça.
Ah oui, j'avais pas vu que donc, tout en haut, tu as les gros projets, et puis si tu descends, tu as des plus petits projets moins connus. D'accord. L'interface, j'ai encore un peu du mal.
C'est... Ouais, il y a un bandeau sur le dessus qu'il faut scroller à droite ou à gauche, ce qui n'est pas très intuitif.
Mais ça, c'est les gros projets.
Peut-être qu'en version mobile, ça a plus de sens. Non, c'est tout aussi bizarre.
Mais du coup, si vous avez un peu de temps et que vous avez un peu d'énergie, on ne peut que vous conseiller d'aller sur Contribule, regarder les projets qui demandent des contributeurs et de vous lancer dans la grande aventure de la contribution. Et si jamais vous avez, vous, des projets que vous aimeriez avoir des contributeurs, ça peut être une manière aussi de rendre visibles vos projets et de montrer que vous avez besoin d'un coup de main.
Non, c'est chouette, c'est un annuaire des projets en logiciel libre, mais pour plutôt site de rencontre entre projets et personnes qui voudraient contribuer.
Alors, c'est pas que comme sur Tinder, hein, vous swipez pas à droite ni à gauche. Hein.
Mais au Contribatelier, vous y aviez déjà participé ? Parce que, voilà, il suffit de suivre Framasoft, c'est eux qui sont un petit peu les moteurs de cette chose-là, parce que là maintenant c'est un site de rencontre, hein, de l'offre et de la demande, hein, pas plus loin. Et non, le Contribatelier, c'est Framasoft qui dit voilà, on va faire ça, telle date, venez tous sur Big Blue Button. Et on se répartit en différents ateliers. Parce que, allez, voilà, il faut quand même un maître du jeu aussi. Est-ce que Neutrinet aurait besoin de soutien
Plein de soutien. On a plein de choses à faire.
Mais nous, on a plus besoin de chaussettes.
Non, on a déjà nos contributeurs-ateliers à nous avec les Neutritons où on travaille sur l'infrastructure de Neutrinet. Mm-hmm. Mais évidemment, j'ai pas... Enfin, j'avais vu les Contribateliers, mais je n'ai pas encore participé. J'ai vu l'événement. Quoi.
Et je fais un moment coup de pub, parce qu'on parlait de Neutriton. Il y en aura un qui aura lieu demain. Ça se fait en ligne sur framatool.com/Neutriton. N-E-U-T.
Non, ce n'est pas Framatool, c'est le...
celui de Belnet. Donc, jitsi.belnet.be.
Ouais. Mais de toute façon, oui, il y a les infos sur... sur notre Mattermost, sinon chat.neutrinet.be.
S'il y a une petite camionnette de développeurs qui s'arrête devant la porte, vous êtes content ?
Oui, par exemple.
On fera avec. Hein. On s'adaptera toujours en respectant les mesures d'hygiène d'actualité. Bien entendu.
150 cm entre chacun, chacune.
On a suffisamment de fauteuils pour même les mettre dans 1,50 m de séparation.
C'est marrant parce que ce qu'on vient de dire là, il y a une sorte d'atelier par une assoce qui fait dans le libre, qui a lieu demain. Mais alors, où est-ce qu'on trouve l'info ? Sur le chat, non, sur le wiki, non, sur jitsi/public, je sais pas quoi. C'est une difficulté avec la contribution, c'est que quand on porte un projet de développement de logiciels libres, on fait déjà beaucoup de boulot de développer un logiciel libre, puis on fait aussi beaucoup de recherches pour avoir des amis qui aident sur le UX, hein, l'interface graphique, l'interface pour les utilisateurs et utilisatrices, et puis du coup, il y a aussi les traductions, hein, ça aussi c'est un boulot important, mais en général, quand on est au cœur comme ça d'un projet, bah, du coup, ça devient aussi un travail entre guillemets en plus de prendre soin de la communauté de gens qui pourraient venir autour du projet. Pour pouvoir être communicant, pour pouvoir être bienveillant, pour pouvoir aussi gérer parfois les conflits quand il y en a, ou les différences de point de vue sur des choix techniques et tout ça. Et donc, quelle que soit l'approche de la contribution, elle est souvent accompagnée aussi soit d'une charte, soit au moins d'une notion de bienveillance à l'égard des uns et des autres, en étant, on va dire, le plus ouvert possible envers les différents points de vue ou les différents technique, parce que ça peut arriver aussi. Et ce n'est pas toujours évident. Hein. Parfois, les structures hiérarchiques sont probablement plus efficaces en termes de résolution de conflits. C'est non, on a dit qu'on allait faire ça, c'est dans la roadmap, et si ça ne te plaît pas, voilà ton
C4. Ouais, c'est ça, c'est pas forcément plus efficace.
Des développeurs ou des développeuses, on en trouvera, on n'a qu'à, si on a un peu de sous, payer plus cher. Mais bon, dans le monde, on va dire, bienveillant et généreux des licences libres, ça ne veut pas dire gratuit. Hein. On essaye toujours aussi d'accompagner un projet avec une contribution. Hein. On le voit aussi sur Contribule. On peut aussi demander un soutien pécunier, éventuellement, à la réalisation d'un projet. Mais donc, c'est cette gestion, on va dire, des relations humaines qu'il y aura avec les différents partenaires ou collaborateurs ou collaboratrices autour du projet, bah, c'est aussi quelque chose qui demande un peu de travail de la petite communauté naissante autour d'un de ces projets.
C'est clair que quand tu as la tête dans le guidon, faire en plus la communication sur ce que tu fais, c'est pas évident. Et ça, c'est même en dehors des projets informatiques, c'est partout, je pense. Enfin, dans le monde associatif, c'est partout. Je dis pas qu'il faut pas, justement, il faut y travailler. Du coup, quand tu prends l'exemple de la hiérarchie, ça me fait rire parce que, du coup, ils résolvent aucun conflit, en fait.
Non.
Ou alors, tel Salomon, il coupe la vache en deux, quoi. Mais,
ça
mais t'as plus de vache, quoi.
Bah, t'as deux morceaux de vache.
C'est ça.
Du coup, bah, t'as...
Si tu trouves du mauvais côté, c'est pas très intéressant.
Donc, oui, évidemment, c'est
beaucoup... Mauvais côté de la vache.
Ah oui, mauvais côté de la vache. Ah, si t'as la tête...
Un petit morceau, un gros morceau.
Bref, c'est beaucoup plus dur évidemment de gérer le conflit pour que tout le monde, pour que personne n'en ressorte frustré. Et parfois, c'est pas possible effectivement.
Et donc là, on est dans la vraie vie demain en partie, mais bon, beaucoup sur Jitsi. Parce que je demandais de quel genre d'outils il fallait s'équiper pour pouvoir bosser comme ça à plusieurs. À distance et dans le temps.
C'est une vraie question.
Mais vous savez, là, j'ai sous les yeux une expérience de cloud collaboratif mise en place par l'université de Lorraine. Et donc, le retour d'expérience serait pour un ex-cloud et un only office, par exemple. Faut-il d'autres outils pour... en savoir un peu plus, dire qu'on avance dans le temps. Quels sont vos outils privilégiés? Là, j'entends parler d'un wiki.
Ouh, la question des outils. Ça aussi, ça fait partie des grandes joies du développement et de l'accompagnement de mille et un projets associatifs, logiciels ou non, d'ailleurs. C'est les outils. Alors, chez Neutrinet, puisque voilà...
On peut parler du support, c'est intéressant, hein. Je crois qu'il s'est vu changer 3 fois d'outils. On peut parler du wiki, il s'est fait changer 4 ou 5 fois d'outils.
Ouais, 4. Des choses comme ça, ouais.
On peut parler du site web, il s'est vu 2 grosses refontes. On peut parler du moyen de communication qui a pas mal changé entre IRC, email, Mattermost.
Mailing list.
Mailing list, c'est compliqué.
Évidemment, on avait aussi une forge sur GitHub, mais bon, bah, suite au rachat à l'époque par Microsoft, on a trouvé le courage et l'énergie, merci cher Terry Rock et cher AGO par exemple, de migrer le bazar sur le GitLab de domaine public. Comme ça, on se rapproche un peu de nos valeurs.
Et pour rappel, un git, en plus du couvert.
Alors, ce qu'on appelle une forge.
Et maintenant, une interlude musicale.
Non. C'est une forge logicielle. Donc, qu'est-ce qu'une forge logicielle? C'est un endroit où on va forger, donc créer des logiciels. Et donc en déposant le code source, en ouvrant des tickets, soit pour des bugs, soit pour des nouvelles features, fonctionnalités, et en proposant des changements qu'on appelle des merges, parce qu'on va, un peu plus techniquement, on va prendre nos modifications et les fusionner, donc les merger dans le cœur du projet. Mmh. Et voilà. Et avec ces trois gros principes, eh ben, on on se retrouve avec un projet logiciel qui fait du libre.
Le gros avantage, c'est que chaque développeur peut travailler dans son coin sans spécialement à des rythmes différents. Donc tout le monde n'est pas obligé d'avancer au même rythme pour pouvoir contribuer.
Trois cafés de l'heure, quoi, à peu près.
Par exemple, ça peut vraiment se faire de manière très asynchrone. Et c'est d'où un de ses avantages et pourquoi on l'utilise énormément. Git, pour ne citer que cette méthode-là, est celle aujourd'hui la plus utilisée. Donc c'est un des logiciels qui permet justement toute cette gestion de je crée quelque chose de mon côté et puis je vais le fusionner avec le cœur du logiciel.
Et ça a été pensé jusqu'au point où en fait on peut récupérer le code source qui se trouve sur la forge, donc par exemple GitLab, le mettre sur son ordinateur, travailler complètement hors ligne sur le code, et quand on se sent prêt, on se reconnecte évidemment, et on peut envoyer nos changements et les proposer pour intégration.
Et le logiciel fait un peu le ménage, non ? C'est un peu dans le code.
Le logiciel, lui, il s'occupe de... Le Git, tu veux dire ?
Ouais.
Bah, il s'occupe de vérifier s'il y a des conflits, etc. Oui.
Ouais, donc, au moment où tu fusionnes, il va t'indiquer que tiens, ces lignes-là, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je dois conserver et qu'est-ce que je ne dois pas conserver. Donc toi, humain, s'il te plaît, résous le conflit.
Fais un choix.
Mais la plupart du temps, il réussit tout seul. Hein.
Ouais. Et ça, c'est dans la manière moderne aujourd'hui, c'est avec des jolies interfaces web, mais ça existe depuis suffisamment longtemps, où il fut une époque, et c'est encore le cas pour le kernel Linux, où on envoie ces modifications par mail. Donc il y a ce qu'on appelle les patchs, donc des patchs Git, qui s'envoient par des simples emails. Et c'est une personne qui a la possibilité d'écrire dans le logiciel qui va appliquer ton patch qu'il a reçu par mail ou non.
Et c'est d'ailleurs c'est Torvalds aussi, non, qui a inventé Git.
Il a créé Git, il a dit j'appelle tous les logiciels que, selon moi, d'après moi. Et Git, ça veut dire connard en
finlandais.
En anglais. Et donc, il avait appelé Linux pour Linus. Et
Linus connard.
Et Nico, avec une casquette de gnuragiste aujourd'hui, enfin, en plus en dessous du casque.
Je l'ai perdu dans le tram en arrivant.
Non, pour voir où on en était par rapport à la notion de... collaboration souhaitée, collaboration proposée, enfin ce que font déjà les gnuragistes en soi, c'est évidemment et humainement très collaboratif.
Écoute, on est toujours vivant.
Toujours debout.
Alors qu'on est tous assis, mais bon.
Bah oui, écoute, on est toujours là, toujours aussi ouvert quand même, même s'il y a des discussions tout le temps pour garder la barque à flot. Mmh. Ça fait partie du jeu.
Parce qu'on prend ça comme un jeu.
Mais on parlait de Git. Moi, je trouvais que vous aviez une utilisation super intéressante de Git dans le cadre des gnuragistes. Je ne sais pas si vous voulez expliquer un peu ou si...
Bon, ben, donc pour quand même raccrocher pour nos chers auditeurs et chères auditrices, on partait de l'idée de contribuer à des logiciels libres où on pourrait élargir, on va dire, à des logiciels tout court, voire au fond, peut-être au mouvement du logiciel libre.
Mais je vois le lien.
Oui. Mais non, il y en a, j'imagine. Ah, oui, je tout le monde peut voir des liens partout où on a envie. Mais pour moi, en arriver à inviter, on va dire, les utilisateurs lambda, qu'il est possible de contribuer à un logiciel libre et en moins de 10 minutes à se retrouver dans du Git. c'est un peu trash, c'est bien, quand même. Hein, vas-y, pull et merge request et crée des issues. Enfin, t'as perdu un bouton, mais va faire une issue sur GitLab, truc machin. Non, c'est pas si accessible que ça. Et donc, du coup, en parler pour les gnuragistes, comment on fait pour utiliser le GitLab, Ben, enfin le GitEA en l'occurrence, hein, parce que Git c'est le logiciel de base qui permet de fusionner, on va dire, des bouts de code, mais il y a des interfaces graphiques avec justement des gestionnaires de commentaires, de d'issues, hein, de problèmes détectés ou de demandes de nouvelles modifications ou de nouvelles fonctionnalités et de résolution de ces demandes et tout ça. Ben, il y a des interfaces graphiques qui ont été greffées à Git. Et par exemple, GitHub est une interface graphique. Donc, c'est un site web sur lequel on peut mettre des sources et discuter autour des sources. GitLab, c'est un autre logiciel qui est une interface graphique qui permet et qui existe aussi en ligne. GitLab a l'avantage d'être lui aussi un logiciel libre que l'on peut donc installer sur son propre serveur. Par exemple, il existe gitlab.com. Hein, c'est le site principal de GitLab, mais Domaine Public, par exemple, a installé un GitLab sur son propre serveur, que l'on peut utiliser aussi. Framasoft, Framagit, c'est aussi un GitLab qui a été installé par Framasoft sur ses propres serveurs. Et dans le cas d'Ignoragist, on utilise GitEA, c'est un autre logiciel qui permet de gérer aussi donc, du Git et de code source, et donc des issues, hein, des commentaires ou des remarques qu'on a par rapport à un projet de développement. Et chez les Gnuragistes, on s'est dit, ben, nous, on va utiliser ce mécanisme de commentaires pour accompagner les projets associatifs. C'est-à-dire que chez nous, le code source, si tu veux, ce n'est que du texte qui est le descriptif de comment fonctionne l'infrastructure chez tel assos, chez Radio Campus, par exemple, ou dans une autre organisation, ou peut-être pour une plus petite communauté, ou bien peut-être pour aussi une seule personne. On crée un projet qu'on appelle donc une organisation. Et cette organisation, dans notre GitEA, elle a un repo, donc un dossier de travail qui s'appelle le Password Store, dans lequel on peut mettre nos mots de passe chiffrés. Et elle a un repo, donc un dossier de travail de source qui s'appelle Inventaire, dans lequel on met nos textes, nos remarques, nos descriptifs de ordinateur, logiciel, configuration.
La documentation.
Donc, ce n'est pas vraiment du code qui est dedans, bien que parfois, ça arrive qu'on mette du code. Mais en parallèle de chacun de ces dossiers de travail, donc le mot de passe ou l'inventaire, on a une liste de tickets, donc une liste de issues. Et chaque fois qu'il y a un problème ou une remarque ou un besoin, on en crée un ticket. Et comme ça, ça permet aux développeurs, entre guillemets, ou aux collaborateurs du projet, de voir que Nico a créé un ticket pour Radio Campus parce que le serveur RCFS n'est plus joignable. Et donc, du coup, les autres gnuragistes qui font partie du projet peuvent voir ce commentaire et apporter leur remarque ou leur solution, s'ils en ont une. Et donc, c'est ce principe d'avoir un endroit qui contient de l'information et avoir un endroit qui permet de créer des alertes, si on veut, ou des remarques, et de permettre aux autres contributeurs et contributrices d'apporter leurs commentaires, ben, ça permet de faire avancer le projet. Et quand on a fini, par exemple, le serveur RCFS est de nouveau opérationnel, ben, on peut fermer le ticket. Comme ça, on sait que ça a été ouvert par Nico, résolu par, je ne sais pas moi, Tariroc ou Peter, et fermé par Tariroc ou Peter. Et en même temps, ça peut notifier aussi les personnes de chez Radio Campus qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un problème, et que voici la solution qu'on a apportée, et que maintenant c'est résolu. Et donc ça rejoint, entre guillemets, l'utilisation d'un outil qui permet de faire le travail tout en, on va dire, conservant un lien avec la communauté des gens qui tournent autour. Que ce soit les bénéficiaires finaux, on va dire, l'utilisateur du travail, la personne qui va utiliser le logiciel qui a été créé comme ça, ou la personne qui bénéficie des services des gnuragistes, va être tenue au courant de l'évolution du logiciel ou de l'évolution du projet. Et donc ça permet de communiquer entre développeurs et entre utilisateurs et utilisatrices aussi. Et c'est donc un outil, hein, toutes ces interfaces visuelles qu'on greffe sur Git, que sont GitHub, GitLab, GitEA et d'autres. Ça permet, on va dire, de faciliter, si on veut prendre la peine de s'y intéresser, la communication entre les développeurs, développeuses et les utilisateurs et les utilisatrices.
Et comme ça, on voit le temps entre l'ouverture d'un ticket et la fermeture d'un ticket.
Oui.
Le plus court, le mieux.
Hein, ça,
c'est en entreprise, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici.
Mais c'est oui, c'est vrai, mais c'est des vraies données. Hein. Il y a les données, c'est le contenu des tickets, le contenu des dossiers de travail, hein, de l'inventaire ou du password. Ça, on va dire, c'est les données. Mais il y a aussi toujours en informatique les métadonnées. Nico a créé le ticket vendredi 20 mars 2019 à 18h30. Voilà, et il a été fermé. Ça sera automatiquement inscrit dans une base de données parce que le logiciel est fait comme ça. Mmh. Évidemment, ça peut même aller plus loin. C'est-à-dire que sur des forges de logiciels, on peut vraiment voir quel est le rythme de productivité d'une communauté, c'est si on veut. C'est comme tous les outils. Hein. Ça me fait penser à Wolfdem, justement. Il y avait Dawal qui présentait son logiciel Alambic, qui est un logiciel qui permet d'analyser, on va dire, les forges de plusieurs points de vue ou de plusieurs angles, notamment aussi en termes de compatibilité de licence, parce que quand on crée un logiciel, souvent on fait appel à d'autres logiciels déjà existants, et donc du coup on mélange des logiciels entre eux, et donc par exemple Alambic a la possibilité de vérifier ou de, en tout cas, ramener de l'information plus facilement sur les problèmes éventuels de compatibilité entre des licences de logiciels qui s'incluent les uns dans les autres. Donc tout ça, c'est exploiter la donnée, mais exploiter la métadonnée d'une forge de logiciels. Donc voilà. Alors, ça peut sembler très assommant, mais je vais dire, s'il y a bien humainement quelque chose que le logiciel libre a et que je pense beaucoup de communautés de développeurs peuvent avoir aussi, c'est quand même une assez grande ouverture envers les questions. C'est un des souhaits, je pense, avec des trucs comme Contributopia Contribule ou le truc...
Contribatelier,
c'est de... essayer de casser la barrière entre les utilisateurs, utilisatrices et les développeurs et développeuses, qui sont eux aussi des êtres humains. Hein. C'est bien qu'on peut peut-être commencer à développer des logiciels automatiquement avec des IA ou je ne sais pas quoi. Encore aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui fabriquent le logiciel. Et donc, du coup, faire ça, casser cette barrière entre les deux, c'est super important. Parce que c'est ce qui va améliorer, au fond, le logiciel. Et je pense que tout développeur et développeuse, sauf si c'est, comme tu disais, parfois des connards, ça arrive, qui ont une idée, non, mon logiciel, il va faire ça, et qui ne respectent pas les points de vue de ses utilisateurs ou de ses utilisatrices, c'est bien dommage. Mais je pense que beaucoup sont à l'écoute quand on leur pose des questions, quand on leur fait des remarques sur ah oui, mais enfin, les boutons, ils sont trop gros, ça ne sert à rien, ça gâche l'espace, il n'y a pas moyen de faire autrement parce que ce n'est pas confortable pour moi, ou ah, moi, je suis une personne malvoyante, il n'y a pas moyen d'améliorer le logiciel pour le rendre un peu plus compatible avec ma liseuse ou des trucs comme ça. C'est tout ce genre de commentaires, les développeurs en ont besoin pour améliorer leur logiciel. Ouais, ouais.
C'est effectivement le mot qui est utilisé chez Contribule, c'est simplifier le contact. Entre les projets, partageant les valeurs du logiciel libre et des communs, qui manquent de compétences et de superbes contributeurs, contributrices qui pourraient leur donner un coup de main.
Clairement. Et je pense que dans pas mal de communautés libres, peu importe le moyen de communication que vous choisirez, il y aura quelqu'un, ça pourra prendre un peu de temps, mais il y aura quelqu'un qui répondra et qui vous guidera le plus simplement possible vers là où se trouve la communauté ou vers là où, quel est le meilleur moyen de communication.
Ça dépend beaucoup des projets aussi, mais ouais. Parce que souvent. Je pense au fameux dictateur bienveillant à vie, qui est, je crois, le modèle d'organisation des logiciels libres le plus courant, malheureusement, où c'est le créateur du projet, généralement, qui a le droit de vie ou de mort sur les propositions et qui peut refuser tes modifications sans donner de raison, en fait. Il va juste fermer ta demande et voilà.
Pull request
on n'en est qu'au ticket à ce moment-là.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, et heureusement, évidemment, tu as des projets où justement ils font. Je pense à FunQuail par exemple, qui est un serveur audio, qui eux, ils ont été jusqu'à ouvrir un forum pour discuter des décisions de l'association, enfin de la fondation, il me semble même. Et donc ils discutent de la gouvernance en fait entre eux. Donc au-delà de ce qui rentre dans le projet ou pas, il y a aussi de comment on fonctionne. Est-ce qu'il nous faut une charte? Est-ce que comment on communique? Est-ce qu'il faut utiliser le langage EpiCen et des trucs comme ça? Ça peut aller très loin et très loin en dehors du code source. Et c'est super quand les gens ça demande une énergie de dingue, mais c'est super quand on essaie d'inclure le plus de personnes possible, parce que Il n'y a pas que les mecs, il y a aussi, les femmes et tous les autres genres, on va dire, qui ont besoin aussi d'être représentés, quoi. Donc voilà.
Et en parlant de représentation, hein, toujours son contribue, je vois qu'il y a un projet qui a été ouvert sur Jimini. Donc Jimini, c'est une autre forme de consulter du contenu sur Internet. Donc c'est pas du web, donc c'est pas de l'HTTP. C'est le protocole Jimini, donc c'est autre chose. Et là, une personne qui se dit, tiens, normalement le truc devrait être compatible et être au plus de monde possible, mais en fait personne jusqu'à aujourd'hui s'y est penché. Est-ce que quelqu'un veut bien s'y pencher? Est-ce que ça passe bien les liseuses? Est-ce que ça passe bien les text-to-speech, enfin, les assistants vocaux ou,
C'est dingue. je sais pas s'il y a des chiffres. Il y a de savoir si un projet a déjà deux personnes ou si on a déjà 20. En disant, allez, tu vois, comme le bien commun dont ils parlent dans leur présentation. C'est un peu comme les cathédrales, quoi. On se dit, on peut donner un peu de sa sueur, de ses neurones, de son sang, éventuellement, et participer à l'élaboration d'un énorme bel édifice. Bon, du bien commun. C'est sûr que les cathédrales, c'était du bien privé. Bon, d'accord.
C'est drôle que tu parles de cathédrale parce que ça me fait penser à un article qui date d'il y a très longtemps qui s'appelait « Le bazar et la cathédrale
».
Je pense que c'est voulu. Mais qui comparait plutôt les usines libres au bazar et le bazar où tu peux trouver tout ce que tu veux. Et voilà.
Mm-hmm.
Mais bon, ça fait trop longtemps, j'ai plus,
tout à fait. J'ai plus en tête. Eh ben, écoute, comme c'était si long, à mon avis, c'est une époque qui devait aussi dater de 1976. Oh, par là, super combo. Le logiciel libre n'était encore qu'un petit ectoplasme. Et pourtant, en Guadeloupe, les pingouins, on y croyait déjà. Attention, c'est un vieux 45 tours qui m'était offert par mon petit Girogne. Et c'est d'époque, quoi, un 45 tours. Mais c'est de circonstance. Ça scratch.
Tini onti dans tout le monde vine aimé. Bien qu'on j'aime tout le monde un temps au pingouin. Personne pas savait on la satayé. Toute musique yon donne pour yon c'est pingouin. Wop. Jouer en biguin, yon kapé gwené. Jouer en kibé, yon kapé gwené. Quand t'as en rempassé, pas même palais. Yon pas pour connaître, on l'a satayé. Wop! Moi, vi pé gwené. On l'a satayé. On l'a sa sorti. Toute la cette famille, yo capé guené, on l'a satayé, on l'a sa sorti, joue ça qui est fini, qu'a été fin à poué. Yo capé guené, on l'a satayé, on l'a sa sorti. Gédé ces mouns là, café qu'on mette là, moi même attends. Vini vraiment sauter qu'on pingouin.
Oui, Tisha. Kaïta, ce soir là. On offre un pingouin. Pegou ela só.
ce qui est la super pour moi. Les bras en avant.
Un tableau blanc collaboratif. Pour y accéder, je tape dans la barre d'adresse scrumblr.ca. J'accède à cette page. Je donne un nom à mon tableau, par exemple mon tableau. Je clique sur Go. Ah, ici j'accède à un tableau qui est déjà construit. Alors je pourrais supprimer les post-it et les colonnes. Mais dans le doute de son utilisation par d'autres personnes, je reviens en arrière et je modifie le nom de mon tableau. Je rajoute un tiret entre mon et tableau. J'appuie sur la touche Entrée. Je vais rajouter un caractère spécial. Un souligné ici. Et cette fois-ci, j'obtiens bien un tableau vierge. À droite de mon tableau, j'ai un signe plus qui va me permettre d'ajouter.
Quisiera gritar de la montaña más alta, decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí. Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Tal vez un día comprenderán. El amor no es solo un hombre y una mujer. El amor es extraño y descontrolado. Le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él. El amor es más que él la conoce a ella. Quisiera gritar de la montaña más alta, decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí. Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Tal vez un día comprenderán. El amor no es solo un hombre y una mujer. El amor es extraño y descontrolado. Le pasa a cualquiera. El amor es para mí. Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Tal vez un día comprenderán. El amor no es solo un hombre y una mujer. El amor es extraño y descontrolado. Le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él. El amor es más que él la conoce a ella.
Del mañana que soñé, la vida ya no sabe de mis sueños y mi fe. Caminando entre la niebla, no hay lugar para creer. No está claro para mí si es de oro o es de sal. Saber si soy el rey o el bufón de esta farsa. De saber qué es lo que dejo y si me recordarás. Si es pesada para mí la angustia de existir. Caminando sin destino, atravesando el ancho mar. Uno se va dando cuenta que es tan solo en esto de vivir. Caminando entre la niebla, no hay lugar para creer. No está claro para mí si es de oro o es de sal. Saber si soy el rey o el bufón de esta farsa. De saber qué es lo que dejo y si me recordarás. Si es pesada para mí la angustia de existir. Caminando sin destino, atravesando el ancho mar. Uno se va dando cuenta que es tan solo en esto de vivir. Es tan solo en esto de vivir.